Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Vous faites bien, très chers amis, plaisir, Loreto Gagliardi, président du district des Landes de football, que de te recevoir, mon cher Loreto.
Le plaisir est partagé, mon cher Jalon, d'autant plus que tu es dans une tenue tout à fait adéquate ce matin.
Spéciale dédicace, pour ceux qui ont loupé le rendez-vous Facebook, je rappelle que je suis aux couleurs jaune et noir avec ce petit maillot des années 74, filé par l'ami Serge Méhoul, tout de jaune et noir, vêtu pour évoquer quelques petits souvenirs.
Ça remonte, déjà.
C'était des cadets à l'époque, ça s'appelait comme ça. Tu étais le splendide coach de cette formation du Stade Montois. Depuis, de l'eau s'est écoulée sur la Midouze.
Beaucoup.
Une grande aventure footballistique. Loreto, t'as accompagné ça depuis des années. Président du district des Landes depuis quelques mois. On avait fait un point il y a quelques mois de cela, justement, sur la situation générale du football dans les Landes. Ben, comme il y a eu quelques évolutions ces dernières semaines, on va refaire un point sur ce décor, avec notamment les élections fédérales qui se sont déroulées il y a quelques temps de cela, Loreto.
Oui, alors ça a été des élections un peu compliquées parce qu'elles se sont passées en distanciel, forcément. Donc on a un président de la fédération qui est reparti pour un mandat de 4 ans, Noël Le Graët, avec une équipe légèrement remodelée. Je pense que les gens du football ont choisi la continuité dans une période un peu compliquée. Bon, on verra bien dans 4 ans où ça nous mènera. Et puis, plus spécifiquement pour le foot amateur, on a une liste conduite par le docteur Vincent Nolorgue qui a été élu à la tête de la Ligue du foot amateur. Bon, là aussi, c'est de la continuité. Il y avait en face une liste qui avait de solides arguments, conduite par le Gersois Guy Glaria, qui est un gars profondément ancré dans les territoires. Voilà, bon, là, encore une fois, c'est la démocratie qui a parlé. Donc maintenant, on travaille avec ces nouveaux élus au niveau fédéral.
Il y a eu des conséquences immédiates, Loreto, pour les ligues et les districts?
Alors, peut-être pas immédiates, mais je pense sincèrement que la pandémie n'avait pas été avec nous depuis plusieurs mois, un petit coup de boost avec un renouvellement, ça n'aurait pas fait de mal parce que franchement, il y avait des équipes qui présentaient des projets novateurs. Bon, encore une fois, la continuité a été choisie, donc on va continuer, nous, à travailler. Nous sommes l'instance de proximité. On est la mairie, si on se rapproche des collectivités. Nous sommes l'égal de la mairie. Donc, c'est nous qui sommes au contact direct des licenciés et des clubs. Donc, on va continuer à travailler. Et fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose pour nos licenciés.
Non. Et dans des cas comme ça, qu'il y a de bonnes idées sur une liste qui ne passe pas, il n'y a pas vraiment de possibilité de reprendre quelques éléments du programme, ça ne se fait pas trop.
Alors, comme en politique, il y a des promesses en disant on va tenir compte d'eux, mais bon, bien souvent les gens qui sont élus, et c'est normal, mettent en œuvre leur programme. J'espère que les nouvelles équipes, enfin les équipes qui ont été reconduites, tiendront compte justement des programmes qui étaient présentés contre eux, parce qu'il y avait forcément de bonnes idées. Oui, je le crois.
Il y avait des choses plus dans la proximité, le territoire
plus
des petites
choses comme ça. Plus dans la proximité, on est beaucoup à penser que, ben justement, en étant tout au bout de la chaîne, on est parfois oublié. On se rappelle de nous tous les 4 ans, en gros, au moment des élections. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, on aimerait être davantage consulté, accompagné, parce que bien souvent, la fédération met en place des programmes, mais les moyens ne vont pas accompagner ces programmes. Donc, les moyens, c'est à nous de les trouver. Et c'est pas toujours facile.
Alors ça fait quelque temps déjà qu'on sait qu'il y a eu l'arrêt définitif des compétitions sur la planète football. Les conséquences, j'imagine, pour les clubs, vous avez eu l'occasion, Loreto, toute ton équipe, de les partager avec tous les acteurs du football landais.
Oui, alors comme je te l'avais indiqué il y a quelques mois, depuis le mois d'octobre, j'ai un rendez-vous bimensuel avec les présidents de club le vendredi au moment de la pause méridienne. Et pour t'indiquer, il y a toujours entre 80 et 85% de clubs landais, on est 58 clubs landais qui participent à ces rendez-vous. Donc ça me permet d'échanger avec eux, de les soutenir aussi parce qu'ils en ont bien besoin. La période a été très très compliquée, sans doute plus encore que la première pandémie, le premier confinement qui nous avait amené à la fin de saison 2019-2020. Là, ça a été très long et on a senti petit à petit du découragement, de la lassitude et certainement de l'éloignement. Donc c'est pour ça que J'ai tenu à ce qu'on ait ce rendez-vous bimensuel avec les clubs, avec les présidents de clubs, pour leur dire voilà, voilà où nous en sommes, voilà avec qui on travaille, voilà quelles sont les décisions officielles. Et petit à petit, ça nous a permis quand même de maintenir le contact.
Ah, j'ai eu l'occasion, à titre personnel, j'aime bien parler de moi le retour, tu le sais, ouais. De m'en rendre compte avec le rendez-vous que j'ai accompagné un coup de foot avec le district des Landes, oui. Et Kevin, qui s'occupe aussi de la communication. Oui. C'est un podcast qui nous a permis depuis quelques semaines de rencontrer des présidents de clubs un petit peu partout dans le département qui signalaient l'importance que ça avait pour eux, justement, de vous avoir avec le district des Landes comme repère et comme accompagnement.
Oui, parce qu'ils reçoivent des informations, bien sûr, qu'ils reçoivent des informations nationales au travers des différents réseaux. C'est le jour d'aujourd'hui, on ne peut pas y couper. Mais ils sont très attachés, comme on l'est auprès de notre mairie. Nous, quand on a un problème citoyen, on va à la mairie. Mmh. En premier, on va pas à la région, encore moins au ministère. Mmh. Donc, c'est pareil dans le foot. Et les dirigeants, les présidents de clubs aiment bien, justement, ce contact direct avec leur responsable élu, hein, leur président élu, moi j'ai toujours eu pour ligne de conduite de n'annoncer que ce dont j'étais sûr, avec des directives données par la fédération ou la préfecture, donc en descente des décisions gouvernementales. Donc je pense que c'est ce qu'ont apprécié les présidents de club, c'est que jamais je ne me suis avancé ou j'ai annoncé des choses qui ensuite ont été invérifiées ou non posées. Voilà, ce langage de vérité, je pense, a été apprécié.
Alors, à l'heure où l'on parle, Loreto, quelle reprise d'activité évoquée ces dernières semaines? Qu'est-ce qui nous attend côté
Alors,
football?
C'est bien qu'on se retrouve ce matin, puisqu'on a les dernières informations depuis hier soir, qui nous sont arrivées du ministère. Donc en fait, les petits comme les grands ont pu continuer malgré tout à s'entraîner depuis le mois de janvier, depuis le mois de décembre, mais plus encore depuis le mois de janvier, mais sans contact, ce qu'on appelait des entraînements sans contact. Bon. Pour toi qui as joué au football, tu sais très bien que si on n'a pas de contact, c'est quand même compliqué.
Joueur de contact, j'étais. Hein. Je que j'ai fait ça.
Non, tu en prenais beaucoup aussi de mémoire. Et donc, à partir de mercredi, les enfants, jusque les enfants et les ados, vont pouvoir commencer à pratiquer normalement. C'est-à-dire à faire des matchs, à faire des entraînements avec des petits matchs et jouer des petits matchs avec les clubs adverses, les clubs voisins. Pour le moment, on ne parle pas de compétition. De toute façon, il n'y aura plus de compétition. Mais beaucoup de clubs nous interrogent pour savoir s'ils pourront faire, par exemple, des tournois. Oui. Bon, nous n'avons pas encore, les protocoles ne sont pas encore sortis, et on n'a pas les jauges. Donc, on va bien se garder ce matin de dire que les tournois seront autorisés. Ce qu'on pourra faire à partir du 19 mai pour les petits et les ados, c'est de jouer et de pratiquer normalement le football. À partir du 9 juin, tous les pratiquants, garçons et filles, tout âge, vont pouvoir pratiquer en salle comme en extérieur. Donc là, on retrouve une pratique normale avec aussi des matchs autorisés, des matchs interclubs autorisés, encore une fois, en respectant le couvre-feu, qui sera toujours actif, et en respectant les protocoles qui vont être diffusés par l'État dans les jours qui viennent. Pour nous, c'est une vraie lueur d'espoir, parce que nous espérions bien que les clubs puissent à nouveau accueillir leurs licenciés avant le 30 juin, de façon à leur redonner l'envie de revenir dans les clubs. Parce que autant on a conservé les jeunes à l'entraînement, les jeunes sont restés. À partir de 15, 16, 17 ans, ils sont partis petit à petit parce que pas d'opposition, pas de match, pas d'objectif. Donc eux sont partis. Et tout l'objectif des clubs d'ici la fin de saison va être justement, pour ceux qui le souhaiteront, de faire revenir leurs licenciés en leur proposant des petits matchs amicaux, des matchs de préparation de la saison.
Ouais.
Ce qui nous permettra, à partir du 1er juillet, de reprendre une activité normale, d'après les infos que nous avons ce matin. Et donc là, les clubs vont pouvoir à nouveau se préparer pour disputer une saison. Moi, je fais partie des responsables qui ne souhaitent pas une reprise trop rapide de la compétition, justement pour permettre aux clubs de retrouver leurs licenciés, de se réorganiser. Les clubs vont avoir à nouveau à installer des staffs. Je vois que beaucoup font appel à des éducateurs. Les éducateurs ne reviendront pas. Il y a des dirigeants qui ne reviendront pas non plus. Donc, de faire redémarrer une compétition trop tôt, mi-août ou fin août, ça va certainement leur causer plus de problèmes que d'avantages. Donc, soyons prudents. On va parler, je le pense, du Stade Montois dans un moment. Donc le Stade Montois, lui, va reprendre dès le 7 août. Ça veut dire qu'en fait, dès le 1er juillet, certainement que l'encadrement du Stade Montois va relancer la machine pour la saison sportive.
Parce qu'après, pour de mémoire, le début des compétitions, on attaque par la Coupe de France, Coupe de France,
c'est ça.
Ou début septembre.
C'est ça. Alors on est plutôt sur fin août.
Ouais.
On est plutôt sur fin août sur les deux premiers tours, qui sont toujours le lancement de la saison pour les clubs. Et avec un début de championnat, on va dire au 10 septembre, aux alentours du 10 septembre. Là, encore une fois, on sera tributaire des calendriers nationaux, mais je le redis, je ne souhaite pas, pour être en contact direct avec le terrain, une reprise trop rapide, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, Jeannot, que nos joueurs, comme tous les joueurs en France, tous les sportifs, sont à l'arrêt depuis 8 mois maintenant. Ouais, quoi. Ouais. Donc ça, de les relancer en leur disant « vous allez jouer 2 matchs amicaux par semaine, puis Coupe de France, puis championnat », il va nous empêter autant que, qu'on va en avoir sur le terrain.
Et voilà. Ça, ce seront des décisions à la fois entre la Fédération française de football et la partie
et la Ligue régionale,
la Ligue régionale et puis politique aussi, en fonction de tout ça.
Bien sûr, parce qu'on est, encore une fois à la base.
Ouais.
Et donc nous, on est obligé de s'adapter à toutes les décisions qui arrivent du dessus, que ce soit régional ou national.
Dans l'univers du football landais, le Stade Montois, depuis une quarantaine d'années, club phare, ça fait quoi 40 et quelques 45 ans de national.
Ans, ouais.
Avec samedi, Loreto, le nouveau président, Fabien Badbi.
Oui, Fabio Badbi, que j'ai eu aussi comme joueur. Alors, s'il est aussi turbulent président qu'il a été joueur, il va certainement réussir dans ses fonctions. Je n'en ai aucun doute. On connaît la famille Badbi sur Mont-de-Marsan. J'ai été très lié à son grand-père, René Badbi. Je connais bien aussi le fils. Et donc, je suis très heureux de l'élection de Fabio Badbi, qui me rappelle l'élection d'Éric Saint-Martin il y a quelques années, qui avait vraiment donné un coup de boost au Stade Montois. J'ai vu l'équipe qui l'entoure. Beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent donner un coup de main, des joueurs qu'on avait perdu de vue, comme Jérôme Susca ou d'autres encore.
Il y a Simon Elissalt.
Il y a Simon Elissalt, il y a
Sylvain
Vergès, il y a Michael Rémy, des gens qui vont revenir. Il y a Laurent Esperon, des joueurs qu'on a connus, qui ont été très, très actifs. Et je souhaite, bien sûr, pleine réussite à cette nouvelle équipe.
Et puis, connaissant Fabien Badbi, on peut augurer, on peut imaginer qu'ils ont dû, depuis quelques mois, bien travailler tout ça avec un vrai projet.
Oui, oui. D'ailleurs, le projet est consultable sur leur site. Ils ont fait, Fabio est spécialisé dans la vidéo, mais il a fait une très belle présentation du projet sportif éducatif et un projet tourné vers les jeunes, vers la formation, vers le respect. C'est un très joli projet. Je leur souhaite toute la réussite possible pour le mettre en œuvre.
De l'importance de locomotive aussi dans le football landais, c'est toujours bien, évidemment.
Indispensable. Ouais. D'ailleurs, ils le savent.
Ouais.
Je n'ai pas pu malheureusement assister à leur assemblée générale samedi, mais la personne qui représentait, le premier vice-président qui représentait le district, a bien dit que le district était là aussi pour travailler aux côtés du Stade Montois, parce que nous avons besoin d'un club phare, même si maintenant, depuis cette année, nous avons un second club en national.
Et qui veut prendre, peut-être
qui veut prendre sa place
aussi. Ouais, tout à fait.
On sait que Saint-Paul fait tout ce qu'il peut pour pouvoir prétendre aussi à la Nationale 3.
Ouais.
Bon, moi, je suis ravi, bien entendu. Je suis ravi que nous ayons 2-3... on avait eu, je crois, lors de notre dernière entrevue, on avait évoqué le football du Gers, qui avait perdu Hoche, la locomotive, et petit à petit, aujourd'hui, le district du Gers, c'est 5000 licenciés, beaucoup de difficultés à malgré tout le travail qui est fait et qui est bien fait dans le Gers. C'est ce que je ne voudrais pas qu'il arrive dans les Landes. Donc, qu'il y ait 1, 2, 3 clubs de niveau national, bien sûr, j'en suis ravi.
Et c'est Artacien Tiagane, puisque tu ne l'as pas dit, qui repartira la saison prochaine en National 3.
Un
niveau qu'il découvrait cette année, c'était plutôt très bien parti.
Oui.
Et puis affaire à suivre.
Ça s'est arrêté, mais bon, j'avais déjà eu l'occasion de le signaler, mais Laurent Lesca est un président très actif. Il a une équipe formidable de dirigeants. Ils ont structuré leurs jeunes au travers d'une entente intercommunale. Bon, Je reste persuadé. C'est un cas particulier. Il faut reconnaître que Tartas Saint-Hyacinthe en National 3, ça interroge parce que de 3000 habitants. Mais bon, avec la passion et le travail, ça démontre aussi qu'on peut arriver à réaliser des objectifs auxquels on pensait ne pas prétendre.
Bien sûr. On l'a légèrement évoqué. On va peut-être en parler un petit peu plus largement. Loreto, la situation du bénévolat dans le département des Landes avec tous ces clubs. On connaît l'importance. C'est peut-être pas la peine d'y revenir. Il y a peut-être une petite inquiétude autour de ça.
Oui, alors c'est... Autant je reste persuadé que les pratiquants vont revenir. J'ai des collègues qui s'inquiètent en disant on a perdu des licenciés. Certes, on a perdu, nous, dans le département, 1100 licenciés, mais je veux dire, on a perdu des licenciés comme toutes les disciplines sportives aujourd'hui. Mmh. Et certaines ont perdu beaucoup plus de licenciés que nous en rapport. Mais... Les pratiquants vont revenir parce qu'on veut faire du sport, que ce soit du basket, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter pleine réussite à Basketland, puisqu'on est sur Mont-de-Marsan ce matin, que ce soit le basket, le rugby, le hand, enfin, que le tennis, tout le monde a envie de faire du sport. Alors les pratiquants, je pense, vont revenir. Mais pour les dirigeants bénévoles, qui depuis plusieurs mois sont en inactivité, ont peut-être pour certains d'entre eux trouvé d'autres sources de motivation, d'autres activités. Et certains encore, on le sait, que dans l'encadrement des clubs, on a souvent des gens du troisième âge, des gens qui ont passé la soixantaine à la retraite, qui viennent donner de leur temps, et Dieu sait s'il y en a besoin. Et ces gens-là ont peut-être encore un petit frein en se disant « Est-ce que je vais pas aller choper cette bêtise-là en revenant, même si je suis vacciné, on n'est pas trop sûr, etc. Est-ce que je vais refiler? Est-ce que je vais l'attraper ?» Donc, l'inquiétude, effectivement, tu as raison, c'est au niveau des bénévoles. Mettre en œuvre un programme spécifique d'accompagnement du bénévolat. Et à ce titre, je vais créer dans les prochains jours une fondation départementale du bénévolat, en y mettant un budget sur notre prochain exercice, que je vais confier à deux jeunes élus. Ludovic Escal, que tu connais peut-être, oui, qui est un gardien de but, qui est connu dans le département, et Chloé Bidoré, qui est une jeune dirigeante du FC Amou Poudengs, qui font partie de l'équipe qui a été élue avec moi le 20 septembre dernier, et à qui je vais confier donc la mission de dynamiser ce bénévolat par des actions de promotion, de formation, d'accompagnement, de fidélisation. On a avec Kevin, dont tu parlais tout à l'heure, je lui ai confié une mission de structuration du site avec un chapitre bien spécifique pour les bénévoles, pour qu'ils puissent retrouver immédiatement toutes les informations qu'ils sont en mesure de rechercher. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, si tu veux savoir quelque chose très rapidement, tu fais Google et dans la seconde qui suit, tu as la réponse à ta question. Mais pas dans le football. Si tu poses une question, comment organiser une assemblée générale, que fait un trésorier dans le club, comment présenter un bilan, etc., on ne trouve pas. Donc, bien sûr, on trouve. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants bénévoles, dont on sait aujourd'hui que le cycle de vie est de 3 ans, entre 3 et 5 ans, on a de moins en moins de dirigeants, tu sais, qui passent 10, 15, 20 ans, qui sont le socle même des clubs. On a aujourd'hui un turnover, ce sont souvent des parents qui profitent que leurs enfants soient inscrits dans les écoles de foot pour prendre une licence de dirigeant et donner un coup de main au secrétariat, à la trésorerie, que sais-je encore, à la communication. Et donc, bien souvent, ces gens-là recherchent tout de suite une information pour savoir ce qu'ils vont avoir à faire. Donc c'est tout l'objet de notre travail que l'on a entamé avec Kevin et nos équipes, c'est de permettre à ces personnes-là qui vont prendre du temps dans une période précise de leur vie, de donner du temps de bénévolat, c'est d'avoir immédiatement l'information qu'ils recherchent. Voilà. Et ça fait aussi partie des demandes des présidentes et présidents de clubs, qui nous disent, je recrute un dirigeant, mais il me dit toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse et comment veux-tu que je le fasse? Donc c'est pour ça, ça fait partie des actions prioritaires, mais aussi la valorisation du bénévole. Ah, on aura très certainement à créer une manifestation d'ampleur en fin de saison pour valoriser les bénévoles. Certains districts l'ont déjà mis en place et je souhaite qu'on le fasse à nouveau dans le district des Landes aussi.
Ah, quelque chose de très concret comme ça pour accompagner le retour avec un calendrier de prévu, l'aurait tout pour
Alors,
tout ça
Dès le début de saison, je pense que la plateforme d'accompagnement des dirigeants sera prête à la rentrée. C'est un gros travail qui sera fait, mais je suis persuadé que Kevin va le réaliser. Et puis, à terme, mais dans le courant du mandat que les clubs m'ont confié, je souhaiterais créer un conseil départemental des jeunes dirigeants, à l'image d'un conseil municipal des jeunes, justement pour inciter des jeunes dirigeants, des quadras, comme on dit, à prendre des responsabilités. Alors, c'est pas facile, parce que quand on dirige un district, on a des réunions un peu partout, à toute heure du jour et de la soirée, fort heureusement pas de la nuit, mais bon. Donc, je souhaiterais qu'on puisse impliquer... tu sais, ce fameux statut des bénévoles dont on parle, l'État nous parle depuis des décennies et qu'on n'arrive pas à mettre. Donc, peut-être par la création d'un conseil départemental des jeunes dirigeants de 18 à 25 ans, on pourrait créer peut-être quelques vocations pour ne pas avoir autant de difficultés que l'on en a eu à trouver 21 personnes pour diriger un comité départemental pendant 4 ans.
Et puis s'il faut quelques conséquences positives à cette crise-là, à cette situation, peut-être vraiment passer par là, avoir ce réel retour au terrain et à la proximité.
Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Il faut vraiment... j'ai mis en place dans l'équipe qui m'accompagne des référents de secteur, donc ils sont au contact direct des clubs. Là, en ce moment, ils sont en train de contacter tous les clubs. On a réalisé une enquête pour savoir où en étaient les clubs aujourd'hui. Ils nous ont répondu à 85%, je crois, ils nous ont répondu. Et à partir de cette enquête, j'ai constitué des binômes d'élus qui prennent contact directement avec les présidentes et présidents de clubs pour discuter avec eux de leurs problématiques, de savoir comment le district peut les accompagner sur des projets d'infrastructure, sur des projets de structuration, sur des projets de formation, etc.
Ouais, parce qu'il y a du cas par cas, quoi. Chaque club est aussi différent, même s'il y a ce socle commun.
Bien sûr, on va du club de Pujol-le-Plan qui doit avoir 25 licenciés à Seignos Cabreton-Souston qui a 700 licenciés. Tu t'imagines bien que les problématiques ne sont pas les mêmes. Quoi.
Et puis, un des derniers rendez-vous, c'était avec le président de Saint-Martin-de-Seignan, qui me disait qu'ils en avaient profité pour faire plein de choses, des pergolas. Enfin, il y avait eu un vrai point positif à tout ça, alors que d'autres ne sont plus dans l'inquiétude, donc c'est toute la diversité.
Je crois qu'il n'y a quasiment aucun club, de mémoire, il n'y a aucun club qui a fermé les portes en disant, bon, il n'y a plus rien, on ferme, on reviendra au mois de septembre. Les clubs sont restés et justement ont profité, pour beaucoup, de cette période d'inactivité pour améliorer le lieu de vie, le foyer, l'accueil, les vestiaires, voilà, et les mains courantes, et ça c'est extraordinaire.
Tennis ballon, plancha, de petites choses comme ça, sûr, un peu festive quoi.
Tout ce que les licenciés vont retrouver en revenant dans le club, en se disant tiens, voilà, on a un vrai lieu de vie, ça fait plaisir de se retrouver là, plutôt que d'avoir des, comme j'y étais il y a 15 jours, des installations détériorées par des gamins un peu désœuvré, forcément, ils n'avaient plus de points de repère non plus. Voilà, mais ça fait. Je préfère aller dans un club où ça vit, où ça a été, où tout a été repéré. Voilà, ça donne un cachet, puis ça donne envie d'y revenir.
Et puis il y aura peut-être l'effet champion d'Europe aussi, Loreto.
Oui, revenir, on l'espère.
Parce que ça débute dans un mois, hein, c'est ça, on y est là.
La saison prochaine, l'équipe de France, de mémoire, a 13 matchs. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, entre le championnat d'Europe, la Ligue des Nations, dont on est qualifié pour le Final Four, la Ligue des Nations, la reprise de la Ligue des Nations sur la prochaine, plus les qualifications. Voilà. On a une saison à 13 matchs internationaux. Donc, effectivement, la vitrine au football va être de nouveau, exposée. Et, en souhaitant qu'on puisse aller le plus loin possible, aussi bien en championnat d'Europe que sur cette finale de la Ligue des Nations. où il y a quand même, je crois qu'on doit jouer la Belgique de mémoire, donc ça va donner, ça va être bien.
Et ça va être un plaisir de retrouver cette bechigue là, pour tous celles et ceux qui veulent venir.
Ah oui.
Je sais, j'ai essayé de m'y remettre ce matin, j'ai perdu Loreto, ça faisait longtemps que j'avais pas. Pourtant j'étais à la bonne école, hein, avec toi. Merci beaucoup Loreto.
Avec plaisir.
Et puis évidemment, au plaisir de te revoir. Oui. Dès qu'il y a du neuf, dès qu'il y a quelques nouvelles à partager, ce serait évidemment un plaisir de faire et d'évoquer ces aventures des districts d'Irlande de football, peut-être même en essayant de renforcer un petit peu ce lien avec Radio MDM.
Avec plaisir. Je sais que l'action qui a été menée en partenariat avec MDM, là, qui est sur les réseaux, a beaucoup de résonance. Je vois que c'est beaucoup partagé et c'est très apprécié parce que on est dans un département où, malgré que nous soyons le sport le plus pratiqué, nous sommes le troisième sport le plus exposé derrière le rugby et le basket. Bon, une fois qu'on sait ça, où on rechigne dans notre coin et on dit bon, mais c'est pas gentil, où on essaie de trouver des solutions, comme avec toi et ta radio. J'étais il y a quelques jours à Radio Souvenir à Dax, enfin sur l'antenne qu'ils ont ouverte à Souston. On m'a donné la possibilité de parler pendant une heure de football. Ça a été un ravissement et bon, il n'y a pas que Sud-Ouest dans la vie. Hein,
Mais bien sûr, il y a ces superbement géniales radios associatives aussi, que tu connais d'ailleurs, puisque comme de radio tu fus à l'époque aussi.
Et oui, c'est vrai.
Et bien oui, je me souviens, t'étais invité d'honneur.
Voilà, Place Saint-Roch.
C'est ça. Et on a même une émission de rock'n'roll qui s'appelle comme ça
c'est
ici.
Vrai.
C'était quoi la radio à l'époque, tu te souviens, Loreto? C'était de ces radios associatives nées des années 82, les anciens noms de pirates. Radio 6, Radio Marsan, Radio Loreto.
Non. J'y faisais déjà, mais ça te surprendra pas, une émission de foot. Ouais. Et puis j'avais des débats passionnants avec Christian Darcos, Bernard Batz. On avait reçu Christiane Founaou à l'époque qui s'occupait de foot féminin, qui était adjointe au sélectionneur national. Voilà, mais c'est un ravissement. Voilà. Bon, moi je Sud-Ouest a sa politique éditoriale qui lui appartient. Ben, quand on a un peu de place, on la prend. Quand on n'a pas de place, on va voir ailleurs. Et puis, moi, c'est toujours un plaisir de venir à MDM comme ailleurs.
Mais plaisir à partager, Loreto. Puis, comme tu as évoqué le football féminin, on pourra réouvrir un chapitre à la prochaine fois aussi.
Parce
que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'effervescence.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Loreto.
Avec plaisir, merci à vous.
Et le retour à la musique sur Radio MDM.